Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue pour un nouveau podcast de Perdusa, pendant lequel nous allons aborder le douloureux problème du retour des séries après 3 mois de grève. Alors, avez-vous ressenti de grands changements? Les intrigues vont-elles plus lentement? Avez-vous décidé d'arrêter les séries? C'est la question centrale de ce podcast. Pour y répondre, nous avons Tigrou.
Bonjour.
Nous avons Drum. Bonjour. Et nous avons GG. Bonjour. Alors, est-ce que Gossip Girl, c'est moins bien ou c'est mieux que avant la grève? La question est posée. Mohamed, qu'en penses-tu?
Je regarde pas Gossip Girl.
Sympa.
Donc pour moi, c'est un peu pareil qu'avant la grève.
Pourquoi tu regardes pas Gossip Girl?
Parce que j'ai pas aimé le pilote.
Super.
Et parce que c'est ce que tu disais il y a quelques semaines, enfin, les soucis des gens riches. Enfin, j'ai ma dose avec les Walker. Et...
Ouais, mais eux, en plus d'être riches, ils sont méchants, quoi. C'est ça qui est bien. Puis ils sont jeunes, puis ils boivent, puis ils sniffent de la cocaïne. Mais quand vraiment l'un d'entre eux a un problème, ils mettent leurs soucis personnels de côté, ils font front commun.
Moi, j'ai trouvé que Gossip Girl, c'était assez égal avant ou après la grève. J'ai pas vu de gros changements. J'ai l'impression que la série a plutôt bien supporté de voir la fin de saison condensée. J'ai pas trouvé s'il y avait quand même des intrigues un peu qui ont été traitées de manière un peu rapide, notamment le coming out du frère de Serena, qui aurait bien pu occuper 5 ou 6 épisodes et qui était torché en 15 minutes. Ce qui n'était pas vraiment gênant, mais disons que ça nuisait un peu au peu de réalisme qu'a la série de voir en 15 minutes un gamin de 14 ans faire son coming out, s'assumer et aller outer son ex-petit copain qu'on n'a jamais vu dans la série devant tout le monde. À part ça, très bonne fin de saison pour Gossip Girl pour l'instant.
Enfin, les coming out dans les séries, c'est comme l'alcoolisme ou la drogue, c'est réglé en 5 épisodes et ensuite.
Ouais, mais normalement, c'est 5 épisodes, c'est pas.
Là,
15
c'est quand
minutes.
Même 5 scènes où il se fait outer, sa mère réagit mal, sa mère réagit bien, sa sœur réagit bien, il va outer son copain.
Et générique.
Et c'est fini, sachant qu'il y a eu 17 intrigues supplémentaires dans l'épisode. Moi, j'ai un souci avec Georgina, je supporte pas.
Son prénom.
Et puis la dynamique, la nouvelle dynamique, c'est-à-dire qu'elle rend les personnages que moi j'aimais bien complètement stupides. Le gars qui jouait dans The Mountain, le copain de Serena. Moi, ce que j'aimais bien aussi dans Gossip Girl, c'est qu'il y avait un couple central et que ce couple-là, il s'en sortait bien malgré les malentendus. À chaque fin d'épisode, c'était réglé. On n'avait pas 3 mois de malentendus, de « oh mon Dieu, il a failli me tromper », etc. C'était réglé. Là, avec Georgina, on est vraiment dans le soap de base à la Dawson où tout le monde se pose des milliers de questions, machin, qu'as-tu fait, je ne dis pas la vérité. Moi, elle me gêne un peu, puis elle me gêne un peu dans son côté je suis la réincarnation du diable qui n'a aucun sentiment, qui. Enfin, là, pour le coup, c'est la méchante point barre. Et apparemment, elle reste dans la seconde saison, je ne sais pas comment elle va faire, sachant qu'elle a été abominable avec tout le monde.
Ouais, mais je pense qu'ils vont l'approfondir. Enfin, au début de la série, Chuck était assez un personnage assez sans vraiment de profondeur. C'était le méchant qui essayait de violer une gamine de 13 ans sur un toit, et puis ils ont approfondi le personnage un peu après. Moi, j'ai pas vraiment de problème avec Georgina. Je trouvais qu'elle dynamisait un peu la série, que c'était un moyen plus original de foutre la merde entre Serena et son copain
Dan
plutôt que. Enfin, avant, j'avais l'impression que les scénaristes allaient faire le truc très conventionnel. Vanessa est amoureuse de Dan, il y a un truc entre eux. Et bon, au moins, je trouvais que ça faisait un peu bouger la série. Ça m'a pas dérangé plus que ça. Maintenant, c'est sûr que si elle reste dans la série, il va falloir approfondir le personnage. Mais j'ai confiance parce que Michel Trachtenberg, je sais pas comment on la prononce, m'a l'air d'avoir le pot. Enfin, c'est plutôt une bonne actrice, donc elle devrait pouvoir jouer le personnage, enfin donner un peu de profondeur au personnage, plus que Marissa de The OC qui est envisagée dans le rôle au départ.
Et ben continuons avec les riches, les graves problèmes des gens riches en accéléré, puisque Brother and Sister est revenu à l'antenne, et ça va vite aussi, Brother and Sister.
Ouais. Beaucoup trop vite d'ailleurs. L'intrigue avec. Rebecca est un peu limite, et je pense que c'était assez maladroit de condenser ça sur 5 épisodes. Ils auraient peut-être dû garder l'intrigue pour la saison 2, parce que ça demande un effort de la part du téléspectateur d'accepter que Rebecca déjà n'est plus une Walker. On a redéfini un peu le rôle d'Holly. Et surtout, qu'elle se mette avec son frère, qui est plus son frère, le tout en moins de 5 épisodes, ça fait un peu beaucoup, je trouve.
Même si, quand même, depuis le début de la série, même depuis leur rencontre, ils ont eu un lien particulier tout de suite, qui était sûrement pas dû au simple fait qu'ils étaient contents, chacun et l'autre, de trouver un frère ou une sœur compatissante.
Moi, en tout cas, j'ai jamais vu de bribes d'inceste dans la première saison. Dans la deuxième, il y avait un peu l'intrigue de Rebecca un peu jalouse.
Dans la deuxième, ça se sentait vraiment qu'ils voulaient aller par là quand ils ont commencé à ramener un mec qui était peut-être le père de Rebecca.
Oui, à partir de là, ils avaient prévu.
Dès que son frère avait un copain, une copine, pardon, elle était méga jalouse. Mais clairement, c'était trop rapide, cette intrigue.
C'était beaucoup trop rapide.
Déjà, c'est bancal. Et puis, à la limite, il aurait fallu qu'elles s'aperçoivent d'abord qu'ils ne sont pas frères et sœurs. Et qu'ensuite, il y ait une dizaine d'épisodes pour que, peut-être, ils s'aperçoivent qu'ils étaient attirés l'un par l'autre. Là, c'est fait...
Et surtout que la jalousie de Rebecca pouvait se comprendre. Ces deux personnes qui étaient très proches, sont devenues très proches très rapidement pendant très longtemps. Et il y a une troisième personne qui arrive. C'est un peu déstabilisant pour elle. Indépendamment de sentiments qu'ils pouvaient avoir. Pour moi, ça me paraissait une réaction assez... qui m'a pas choqué tant que ça. Je voyais pas vraiment une relation incestueuse là-dedans, dans la jalousie de... Ah, ça pouvait se jouer sur... sur un autre niveau.
Oui, ça se voyait pas, c'était pas incestueux en soi, mais disons que moi je trouvais qu'on sentait qu'ils allaient vers l'histoire de l'inceste parce que t'avais ces deux intrigues en parallèle, le fait qu'elle découvre qu'elle est probable peut-être pas une Walker et qu'en plus elle commence à avoir une relation bizarre avec son frère. Mais surtout, c'est pas parce que deux acteurs ont une certaine alchimie qu'il faut les faire sortir ensemble, quitte à créer une intrigue complètement lourdingue comme quoi l'un des personnages n'est pas la sœur de l'autre. Et pour faire sortir deux personnages ensemble, ils ont complètement, résultat, toute l'intrigue de Rebecca, son intégration à la famille, a pas vraiment d'utilité. Ça aura été assez.
Ça donnait quand même quelques bonnes scènes, je trouvais, dans le final où Rachel Griffith, je sais plus son prénom, j'ai envie d'appeler Brenda. On va l'appeler Brenda. Ou Brenda, Ali McBeal et la nonne volante. Considérait que Rebecca faisait quand même partie de la famille. C'était assez bien trouvé.
Ça, c'était assez bien géré, finalement. Mais il reste que moi, je me sens un peu floué quand pendant une saison et demie, on me gonfle avec ces intrigues. En plus, clairement, c'était pas prévu depuis la première saison. Il y a toute cette histoire de photos qui est complètement bancale, parce qu'il me semble que dans la première saison, on nous dit clairement plein de fois que c'est Rebecca sur la photo, tout le monde la reconnaît. Maintenant, on s'aperçoit que c'est un mec, alors que clairement, on voit que c'est une petite fille sur la photo. Il y a un nouveau frère qui débarque, c'est un peu...
Avec le nouveau frère, j'ai peur qu'il y aurait une redite de toute cette intrigue. Et le truc qui m'a un peu étonné, c'est que les Walker, c'est des gens assez riches. Holly n'était pas une personne, a priori, en qui on peut faire confiance, que personne n'ait songé jusque-là à faire un test ADN pour prouver que Rebecca était bien leur sœur. Oui.
Il y avait eu, dans les premières saisons, première saison, quelqu'un qui lui prend... C'est pas Kevin qui
prend un cheveu et finalement il fait.
Il le fait pas parce que vraiment il a confiance et il sent que c'est sa sœur.
Il me semblait, ouais. Mais bon, je trouvais que c'était assez. C'est pas une intrigue.
Une autre intrigue qui a quand même été squeezée en 4 secondes, c'est la course à la présidence du mari de. Est-ce que c'était pas une bonne chose ça
si, c'était obligé à faire.
Ouais. Mais du jour au lendemain, paf, c'était fini, il avait perdu.
Mais ça, c'était plutôt positif, parce que cette intrigue, c'était vraiment. Ça plombait la série comme pas possible, ça n'avait aucune espèce d'intérêt. C'était. Je sais pas, il faut connaître les limites de sa série, et clairement, Brothers and Sisters, c'est pas une série assez intelligente pour pouvoir faire de la politique de manière intéressante. Donc, cette intrigue était bancale depuis le départ, elle était complètement. En décage avec la série, elle ne pouvait pas être intégrée aux intrigues familiales.
Et surtout que c'était une résolution impossible. On savait très bien qu'il n'allait jamais devenir président, parce que ça impliquait que Kitty quitte totalement la série, ou redéfinir totalement son rôle. C'était une intrigue qui était assez expédiée, mais pour moi, Rob Lowe reste le gros problème de la série. À partir du moment où il a une forte ambition politique qui disparaît assez rapidement dans ces 5 épisodes. Mmh. Déjà, le personnage en lui-même est pas un personnage assez constant. Il est pas du tout intégré à la famille. Évidemment, c'est un grand nom, donc ça explique qu'il ait son intrigue à lui. Mais je pense qu'on devrait le voir autant que Scotty ou la femme de...
Ou alors qu'il le montre plus, mais en l'intégrant aux intrigues familiales, parce que Kitty et Rob Lowe, ils ont leur intrigue à eux à chaque épisode. Mmh. Et enfin, je sais que l'avant-dernier épisode de la saison, que j'avais trouvé super bien, parce qu'il y avait plein de disputes, plein de révélations, il y avait plein de trucs bien, et il y avait Kitty et Rob Lowe qui avaient leur intrigue à eux, qui n'avaient aucun rapport, qui ne voyaient personne d'autre. À la limite, il faut faire une série sur Rob Lowe s'ils veulent montrer Rob Lowe qui fait des trucs qui n'ont rien à voir avec le reste de la série. Parce que là, ça plombe une partie des épisodes et ça a enlevé tout l'intérêt du personnage de Kitty, qui en avait déjà pas forcément beaucoup, donc c'est dommage.
Eh bien, passons maintenant à Ugly Betty, elle aussi atteinte du syndrome, on torche nos intrigues en 2 minutes parce qu'on n'a pas beaucoup d'épisodes.
L'intrigue qui en a le plus bénéficié, ça reste quand même le retour de Willy Mina. Parce que là, la saison était vraiment plombée par son absence, dans mode. Mm-hmm.
Moi, je trouvais que... j'ai trouvé au contraire que Ugly Betty, c'est une des séries qui a peut-être le plus souffert de la grève, parce que j'avais vraiment l'impression que la saison 2, c'était une saison qui avait été très très bien gérée en termes de rythme, et toute la première partie de la saison, les intrigues duraient juste assez longtemps, quand ça durait 4 épisodes, au bout de 4 épisodes, on avait juste fait le tour comme il fallait, ça redécollait à chaque fois pile au bon moment. Et du coup, j'ai l'impression que j'étais assez déçu quand j'ai vu qu'ils étaient obligés de raccourcir la saison, parce que je pense qu'ils avaient assez bien géré leur truc pour que ça dure 22 épisodes, que ce soit bien rythmé, qu'il n'y ait pas de temps mort pendant la saison. Et du coup, là, on a eu, après le retour de la greffe, 2-3 épisodes assez faibles, parce que finalement, il y a des intrigues qui étaient complètement bâclées. Par exemple, l'intrigue de Daniel avec la sœur de Wilhelmina, en 2 épisodes, il tombe amoureux, c'est limite s'il ne se fiancie pas, et puis elle devient psychopathe, ça n'avait pas vraiment d'intérêt. Et en plus, comme il leur restait peu d'épisodes, j'avais l'impression que c'était obligé de se concentrer sur les intrigues clés de la saison, c'est-à-dire Betty et Henry, par exemple. Ce sont des intrigues qui ne sont pas forcément les plus intéressantes, et toutes les intrigues secondaires, qui peuvent être les trucs d'Amanda, de Marc, ils n'y avaient plus le temps, donc il n'y avait pas ces intrigues-là. Donc moi je pense que là pour le coup Ugly Betty a un peu souffert de la grève, mais le dernier épisode montrait qu'ils avaient, ça y est, je pense qu'ils ont comblé leur retard et ça peut repartir.
Je suis pas trop d'accord sur le fait que c'était une série qui avait bien prévu son coup sur 22 épisodes. L'intrigue d'Henri, c'était la même chose chaque semaine.
Moi ça me déplaisait pas au départ. Je trouvais que ça partait dans une direction inattendue.
En quoi c'était inattendu?
Le fait qu'ils choisissent quand même de sortir ensemble alors qu'ils pouvaient pas rester ensemble, qu'ils introduisent une troisième personne, enfin un deuxième prétendant pour Betty en plein milieu de l'intrigue pour secouer un peu ça et que ce soit pas juste Betty qui gémit sur Henri. Ça me déplaisait pas, c'était pas la meilleure intrigue. Je trouvais que la saison 2, la première partie de saison était vraiment très réussie parce que c'est en termes de rythme.
Moi je trouve que l'intrigue de Betty Henry c'était la plus faible et qu'on pataugeait vachement dans la semoule. C'était, encore une fois, c'était prévisible qu'ils n'allaient pas se mettre ensemble. Et surtout c'est du gaspillage de Christopher Gorham qui n'était pas bon dans son rôle. Les scénaristes n'avaient pas du tout quoi en faire. Je trouve que c'était beaucoup beaucoup trop long. Et qu'au contraire, la grève a permis d'expédier un peu cette intrigue.
Mais c'est-à-dire l'intrigue principale qui touche Betty depuis le début de la série est finalement ce qui nous intéresse le moins. Enfin, Betty, c'est pas le personnage qui fait que la série tient vraiment la route. Comme disait Tigrou, c'est tous les à côté, tous les personnages censés être secondaires qui apportent le sel à la série. Et effectivement, c'était pas si grave. Moi, je me disais bien à cette intrigue avec Betty, avec son prétendant. Parce que j'ai pas d'espoir, j'ai pas d'attente particulière en ce qui concerne son personnage à elle, sachant que c'est le bon Saint-Maritain, le nœud qui va toujours être gentil, qui rattrape les conneries de son patron, qui est vraiment super gentil. Foncièrement, elle m'intéresse pas, Betty. parce que je pense pas qu'elle peut, qu'elle puisse évoluer. Le jour où Betty enlève ses lunettes, devient une femme indépendante et motivée, voilà, la série sera finie. Ce qui est marrant, c'est tous les à côté. Et cette grosse intrigue ne me dérangeait pas tant qu'elle n'était pas. Tant que le reste, qu'elle n'avait pas phagocyté tout le reste.
C'est ça, elle n'était pas omniprésente en fait en début de saison. C'était, bon, c'était une intrigue que tu pouvais ne pas aimer. D'ailleurs, c'était loin d'être la meilleure intrigue, je suis d'accord. Et Christopher Graham était assez peu convaincant. Mais c'était 10 minutes par épisode. Et dans tout le reste, tu avais plein d'intrigues bien. Donc, c'était pas des épisodes parfaits, mais ça prenait pas trop de place. Et après le retour de la grève, il a fallu qu'ils évacuent cette histoire d'Henri en 3 épisodes. Donc, du coup, ça monopolisait les épisodes complètement. Et c'était franchement gonflant parce que.
Parce que c'est pas une bonne intrigue.
Oui. Mais je parlais de rythme, je parlais pas de qualité d'intrigue.
Voilà. Bah pour moi, c'était un peu comme l'intrigue de Rob Lowe, c'est quand je sors ma DS devant Guy Betty, c'est quand je bouquine un peu, c'est. Enfin, je veux bien que ce soit une des intrigues de Guy Betty, mais ça restait quand même une intrigue assez centrale dans la série.
Oui, mais je trouve qu'ils avaient réussi à dynamiser un peu le truc en introduisant le personnage de Gio. Enfin, moi, j'aime beaucoup son personnage, le fait que. Quand elle est avec lui, Betty devient plus rigolote, qui n'arrête pas de s'engueuler. Et le fait que ce soit pas juste Betty et Henri, mais qu'il y ait toujours Gio qui débat, ça donnait un côté un peu plus punchy à l'intrigue, un peu plus rigolo. Et ensuite, c'est vrai que cette intrigue, elle était prévisible. On savait bien qu'Henri allait devoir partir, que Betty allait avoir le cœur brisé. Mais ça me dérangeait pas plus que ça. Et sinon, je suis assez d'accord sur le fait que Betty, c'est clairement c'est pas le personnage le plus intéressant de la série, c'est plus un catalyseur. Dont on a besoin parce que sans elle, les autres personnages n'auraient pas d'interaction. Et puis même, il y a besoin d'avoir Betty, la gentille un peu niaise, pour qu'à côté de ça, Marc soit encore plus outrancier, Amanda soit encore plus outrancière. C'est un peu comme Jennifer Garner dans Alias, qui en elle-même avait peu d'intérêt, mais sans elle, on n'aurait pas pu avoir tous les méchants qui gravitaient autour.
Pareil pour Ally McBeal.
Ouais.
C'est un peu le syndrome du personnage principal que tout le monde déteste. Mais...
dont on a besoin.
Un peu comme Meredith dans Grey's Anatomy.
Ah, sauf qu'on déteste aussi tout le reste. Quoi. C'est...
Moi j'aime bien Grey's Anatomy depuis que ça s'est revenu. J'ai l'impression que ça va plus vite et que ça s'amuse. Enfin, que voilà, on est moins dans le pathos qu'avant, que les choses évoluent. Meredith. Fait une psychanalyse, Georges s'amuse à côté, enfin, ça avance, et puis pour l'instant, moi je suis content de l'intrigue avec la lesbienne, parce que j'ai tellement peur que Cali devienne lesbienne, et ça je pourrais pas le supporter, parce que ça me saoule, c'est ces histoires de gens qui se découvrent en plein milieu des séries homosexuelles, et qui paf d'un seul coup, ils vont franco en disant, mon dieu... C'est vrai que j'ai changé parce que j'ai décidé de changer. Ça me saoule un peu. Donc je croise les doigts, j'ai pas vu le dernier épisode, là, l'épisode de jeudi avec Cali qui m'a un peu rassuré. Mais Cali, foncièrement, elle aime les pénis, comme elle le dit dans la série, et c'est pas possible qu'elle devienne lesbienne, c'est impossible. Bon, ça reste Grey's Anatomy, faut pas que je m'enflamme, on s'en fout un peu de ce que deviennent les personnages, mais quand même. Quand même, je trouve que pour l'instant, c'est pas trop mal géré. Moi, ça amuse plutôt les intrigues. Ça m'a beaucoup fait rire le coup du papier qu'ils devaient tous signer, avec qui vous avez couché pour des problèmes d'assurance dans l'hôpital. C'était plutôt marrant. Je trouve que Grey's Anatomy, c'est redevenu un peu marrant.
J'ai l'impression, effectivement, que les scénaristes s'amusent. Enfin, comme si, bon, ils avaient plein de trucs à faire pour la fin de la saison. Il fallait qu'ils arrivent à tel point pour que Meredith et Derek se remettent ensemble dans le dernier épisode, parce que bon, ce ne sera pas une surprise quand ils se remettront ensemble, à mon avis. Et ils avaient plein de pathos à mettre en plein milieu, et puis comme ils ont que 5 épisodes, ils ont décidé de concentrer, et puis c'est pas grave si ça va trop vite, c'est pas grave si en 2 épisodes, les personnages réalisent que leur relation est un peu lesbienne, ou qu'il faut qu'ils se mettent ensemble, ou qu'ils rompent. Et du coup, ça va assez vite, et comme la profondeur a jamais été la force de Grey's Anatomy, tout ce qu'on a envie, c'est de voir des personnages sortir ensemble, pourquoi les scènes qui mènent à ça, ça ne nous intéresse pas vraiment. Et ben, ça, effectivement, ça fonctionne plutôt vite, ce rythme. Mais du coup, il faudrait peut-être des saisons de 10 épisodes pour Grey's Anatomy. Ce serait une piste à creuser pour l'avenir, parce que le début de la saison 4, les épisodes que j'ai vus étaient particulièrement chiants à explorer pendant 40 minutes, pourquoi Izzy et George ne pouvaient pas sortir ensemble. Sans nous fournir d'explications satisfaisantes à la fin.
Mais c'est peut-être juste le souci des séries, c'est peut-être que 22 épisodes en une saison, c'est trop. Ça se voit aussi avec Lost. Enfin, je sais pas si c'est lié, et le fait qu'effectivement ils sachent que dans 2 ans c'est fini, ça leur permet de construire quelque chose sans avoir à délayer le plus possible. Mais c'est une saison de 16 épisodes de Lost, ça me paraît. Je pense que ça leur a permis aussi d'aller à l'essentiel. C'est plutôt sympa cette saison de Lost qui avance. Et où effectivement, ouais, j'avais peur aussi que les flash-forward deviennent un peu sombre dans la routine comme l'avaient été les flashbacks. Et depuis 4 ou 5 épisodes, à chaque fois qu'il y a un flash forward, je suis hyper surpris. J'attendais pas à ce qu'ils fassent ça.
Même ceux de Jack et Kate ensemble.
Jack et Kate ensemble.
Avec le monde.
Ouais. Mais en même temps, ce flashback prend un intérêt. Ce flash forward prend un intérêt avec celui qui vient de se dérouler dans l'épisode de jeudi, avec ce qu'a appris Jack sur Aaron. Donc peut-être que ça explique certaines situations qui sont passées avec Kate, ça explique peut-être cette espèce de jalousie maladie, ce mal-être qu'il a. Enfin, je trouve que pour l'instant c'est plutôt maîtrisé et que les flash forward ont toujours un intérêt, ce que n'avaient pas les flashbacks. Et puis tout ce qui se passe sur l'île, ouais, je suis redevenu à fond dans Lost, c'est-à-dire comme j'avais pas été depuis le pilote.
Non, c'est vrai que c'est une bonne saison. Là, je sais pas si la grève a eu un impact bon ou mauvais, j'ai pas vu une grosse différence entre.
Ça a commencé les après la grève ou ça... Non, ça a commencé avant.
Ils vont avoir. Ça a commencé avant la grève.
D'accord.
Ils vont avoir 1 ou 2 épisodes en moins. Cette saison.
Oui, ils n'étaient pas très contents, en plus les gars de Lost, qu'ils soient diffusés alors qu'ils n'avaient tourné que 7 épisodes. Ils auraient préféré attendre, pas avoir une saison si jamais il n'y avait pas la reprise des tournages. Qui est juste une mini-saison de 7 épisodes, non? Ils ont été emmerdés par la grève.
Vous n'avez qu'à pas faire grève, hein?
T'as dit quoi, c'est
ne
facile
pas soutenir, ne pas soutenir le mouvement et puis.
On va faire grève les week-ends.
Voilà, le dimanche.
Et du lundi au vendredi, ils continuent leur boulot.
Ouais, je suis d'accord. Mais on parle d'autres séries. On parle un petit peu de Survivor.
Ouais.
On veut dire du mode de Battlestar Galactica.
C'était vachement bien cette semaine.
Ouais, c'était bien.
C'est mal, hein. Non, c'est bien dire ça, c'est pas la peine. Non, c'était vraiment vachement bien cette semaine.
C'était... J'avais enfin l'impression que Ron Moore faisait ce que j'attendais qu'il fasse depuis une saison et demie, c'est-à-dire des relations entre les Cylons et les humains, et aussi accessoirement à réutiliser toutes les prophéties qu'il nous balançait en première saison et qu'on n'avait jamais revues sur numéro 6 et Baltar, qui était censé avoir un lien spécial avec le gamin. J'espère que ça va continuer comme ça.
Que le détour vers les 4 Cylons est maintenant fini, parce qu'ils étaient... Ils avaient une part beaucoup trop importante dans cette saison.
Voilà, alors que là, saison. Dans cet épisode, ils étaient tous bien, parce qu'ils avaient un petit rôle, c'était pas de l'introspection gratuite, c'était intégré à l'intrigue, donc c'était vraiment... Cet épisode, j'ai rien vu à ajouter. À part
même le rôle de Lee était pas si mauvais que ça.
Oui, ça allait.
C'était pas juste un médiateur, c'était pas juste le Boy Scout du conseil. Non. Il avait une scène, c'était une bonne scène.
En fait, ce que j'ai bien aimé avec cet épisode, c'est que j'avais pas l'impression que Ron Moore avait décidé de faire un épisode à thème sur, au choix, le génocide, la collaboration, l'avortement. J'avais l'impression qu'il avait une intrigue, et dans cette intrigue, il y avait plein de thèmes qui apparaissaient, mais c'était pas poussif, où pendant 40 minutes, on nous dit « Ah ben, la trahison, c'est bien ou c'est pas bien ou... ». C'était vraiment l'intrigue, et puis l'intrigue abordait des sujets intéressants, mais c'était pas... On avait vraiment l'impression que l'intérêt, c'était l'intrigue. Et c'est ce qui manquait un peu en 3e saison et même début de saison 4 à Battlestar Galactica, c'est que souvent, on avait l'impression qu'ils avaient envie de parler de tel sujet, donc ils avaient construit une intrigue autour qui en elle-même, avait assez peu d'intérêt.
Ouais, comme tu dis, moi, j'avais plus l'impression que, pour la première fois, ils ne poussaient pas un personnage à avoir un rôle important dans l'épisode. Ouais. Que vu qu'ils seraient concentrés sur l'intrigue, chaque personnage avait trouvé son rôle dans son intrigue, et avait juste la part qu'il fallait dans cet épisode. Je pense qu'on a trop fait le forcing sur Starbuck la Folle dans les premiers épisodes, on a trop fait le forcing sur les Cylons du Pif. C'était... Là, il y avait un bon équilibre sur tout l'épisode, et c'était...
Mais je pense qu'en fait, de toute façon, déjà même en première saison, ça se voyait, les points forts de Battlestar Galactica, c'est pas ces personnages, c'est des personnages qui sont très bien quand ils sont dans une intrigue, et quand il y a une bonne intrigue qui est bien écrite, la présidente elle est géniale, la dame elle est géniale, mais quand on s'attarde trop sur un personnage, même dans les deux premières saisons, c'était rarement convaincant, les épisodes centrés sur Starbucks, sur... Alors que quand il y a une intrigue, les personnages, d'un coup, ils ont l'air bien écrits, on se pose pas des questions pendant 40 minutes sur leur réaction. Et du coup, ça fonctionne. Et, j'ai pas été aussi impatient de voir la suite depuis un an. Donc voilà, je suis content. J'espère que ça redeviendra nul d'ici la fin pour pouvoir dire que quand même, Battlestar Galactica, c'est nul et que Ron Moore est un escroc. Mais je me pose la question.
Ce serait pas mal qu'on nous révèle le dernier Cylon assez rapidement.
Ah, en cliffhanger avant le break, je pense, non?
Même avant, ce serait pas mal de nous prendre par surprise.
Moi je pensais que cette semaine on allait dire que c'était Gaeta. Je m'attendais à ça et.
On aurait quand même une confirmation sur Gaeta.
Quoi ?
Mais il chante des comédies musicales, enfin la façon des comédies musicales, on se doutait que bon lui aussi il était un peu différent, ça avait pas dû être facile d'assumer sa nature, qu'il est en train de la découvrir et bon il a fallu qu'on lui coupe une jambe pour qu'il s'en rende compte, mais voilà.
Qui ça pourrait être le premier Cylon? Moi j'aimerais bien que ce soit un personnage jamais vu, pas connu, parce que au moins ce serait surprenant. Ou alors vraiment un personnage secondaire qui a pas d'un. Parce que ce soit Starbuck ou la présidente ou. Enfin on a vu avec les quatre nouveaux Cylons qui ont été révélés que finalement de montrer en plein milieu de la série qu'un personnage que tu connaissais est un Cylon, ça a pas. Enfin c'est un moyen de redonner de l'intérêt à un personnage qui n'en avait pas. Qui n'en avait plus, mais sinon ça apporte pas grand chose. Et je trouve que ce soit la présidente, Rosine, même Starbucks, c'est pas des personnages qui ont besoin qu'on nous révèle que ce sont des Cylons pour rendre l'intrigue plus intéressante. Donc,
J'aimerais que ce soit un personnage mort.
Billy.
Enfin, il n'y a pas eu de mort assez importante dans la série, à part.
La femme.
Et la femme du chef.
La femme du...
Mais non. J'aimerais bien que ce soit un personnage mort qui aurait eu sa résurrection dans le Resurrection Ship et on dit qu'il revienne en
fait. Est-ce qu'il ressuscite les nouveaux Cylons? Parce que moi, dans ma tête, comme c'était des spéciaux qui ressuscitaient pas, parce qu'ils vieillissent, c'est bizarre. Enfin, les autres Cylons ne vieillissent pas. Enfin, j'attends pas de remous ou une grande cohérence à ce sujet, mais ça m'intrigue. Là. Ça pourrait être femme de. Comment ça s'appelle? Le borgne.
Glenn.
Oui, Hélène. Ouais. Bah pour le coup, ce serait intéressant parce que c'est vraiment un personnage qui était soupçonné d'être un Cylon au départ et finalement, on n'a jamais trop compris comment elle avait survécu en perdant la mémoire pendant une saison et demie.
Peut-être que ce sera lié au spin-off. Parce que dans le spin-off, il y a la genèse des
Cylons. Ah, je vais avoir un spin-off. Putain.
Sur Caprica.
Caprica, ça s'appelle.
Ce sera la genèse des 5.
Non, des Cylons, si j'ai bien compris, comment les premiers Cylons ont été créés.
Ah, je sais pas du tout, je me suis pas du tout intéressé.
Mais non, ils viennent de la Terre, les 5 Cylons spéciaux, donc ils viennent pas de Caprica.
Ça, je sais pas.
Tu n'as rien suivi aux prophéties.
C'est ce qu'a dit l'hybride. Non, elle appelle ça l'hybride.
J'ai compris qu'ils connaissaient le chemin de la Terre, qu'ils avaient Google Maps, mais
rien. Moi, j'ai compris que la 3 mène aux 5, qui viennent du 13, et donc voilà, ça vient de la Terre.
Très bien. Une série qui n'a pas bien bénéficié de la grève, c'est 30 Rock, parce que depuis que ça a recommencé...
C'est juste trop bien.
C'est juste... Oh là là. Moi, je sais pas, j'arrive plus du tout à accrocher. Liz Lemon ne me fait plus du tout rire. Je trouve ça assez poussif, les blagues qu'il y a en ce moment. Donc je sais pas si c'est lié à la grève, si pendant la grève ils ont strictement pensé à complètement autre chose et il a fallu faire des épisodes à l'arrache comme ça. Mais je trouve que sur T-Rock il y a eu une baisse de qualité assez phénoménale.
J'ai pas vu de baisse de qualité dans T-Rock, mais en même temps je suis pas peut-être juste le plus.
C'est vrai que tu avais aimé dès le début, mais les gens de Milf Island c'était drôle.
C'était trop bien.
C'était drôle juste en bande-annonce en deuxième plan d'un épisode. Mais toutes les blagues éculées sur la Real TV, machin, blabla. Oh
non, je trouvais que ça montrait un nouveau visage de. Enfin, qu'il y avait une maturité dans le personnage de Liz, qui a été un peu changée par Là, ça me fait beaucoup, beaucoup moins rire qu'avant. Mais effectivement, le stress de savoir si Old Christine allait être renouvelée ou pas, a dû y jouer. Et voilà.
Non, moi j'ai beaucoup aimé 30 Rock. Une sitcom d'NBC qui a eu beaucoup de mal cette saison, c'était The Office. Mais par contre, le final était vraiment, vraiment, vraiment excellent. C'est l'un des meilleurs épisodes de la série pour moi.
Ah.
Tu l'as vu ?
Moi j'ai arrêté The Office après le premier de cette saison.
Eh ben, en tout cas, c'est... Enfin, mis à part l'intrigue de Pam et Jim, c'était vraiment, vraiment un bon épisode. Mais si personne ne l'a vu, je dis que c'était un bon épisode. Et
t'as pas rendu.
Et tout le monde devra me croire, c'est bien ça.
Ouais.
Et ça durait 40 minutes, comme To The Office cette année.
J'ai pas trop fait gaffe à la durée, je t'avouerais. Mais... Enfin, moi, je sais que j'ai beaucoup ri. Et que ça fait très longtemps devant The Office que j'avais pas... Avec bon cœur, sans bémol trop important.
Et est-ce que tu as rigolé devant How I Met Your Mother récemment ?
J'ai arrêté How I Met Your Mother l'année dernière.
D'accord. Parce que moi j'avais arrêté, j'ai repris, et je suis agréablement surpris par la série. Je trouve pas ça génial, loin de là, mais c'est moins insupportable qu'en saison 2 où j'avais dû arrêter parce que c'était pas possible. Il y avait 3 épisodes lamentables pour un épisode un peu drôle. Et là, j'ai trouvé la série plutôt pas mal. Enfin, c'est comme toujours dans How I Met Your Mother, il y a un épisode qui est très bien, un épisode qui est complètement nul, puis ensuite un épisode moyen. Mais ça fonctionne plutôt bien, et ils ont même réussi à intégrer Britney Spears à la série sans que ce soit complètement nul. Donc, voilà, c'est...
Vu de l'extérieur, pour qu'ils n'intègrent pas la série, enfin, moi ça m'a un peu agacé tout le tapage qu'il y a eu autour de la série, sachant qu'ils avaient un truc drôle l'année dernière, c'était Robin Sparkles. J'ai pas vraiment aimé le fait qu'il re-ramène Robin Sparkles en cette saison. Regardez, c'était drôle ce qu'on avait fait, on va faire exactement la même chose, ça va être aussi drôle.
Ils ont pas fait du tout la même chose en fait, justement, j'ai trouvé. Enfin, disons qu'on s'attendait à un clip très drôle, le clip était bon.
C'était sympa le clip.
Hein, il avait rien de génial, mais c'était plutôt sympa. Mais l'épisode n'était pas centré sur ça, il y avait d'autres surprises. Donc ça, cet épisode, je l'ai trouvé plutôt bon. Il y avait James Van Der Beek dans un rôle plutôt rigolo. Enfin, j'ai pas eu l'impression qu'il faisait vraiment un remake de cet épisode. C'était plutôt réussi, j'ai trouvé. Mais si je suis seul à regarder, ça me met dans une position inconfortable parce que je suis obligé de défendre How I Met Your Mother, qui est quand même une série un peu nulle.
Donc je propose je continue à regarder aussi, mais je sais toujours pas pourquoi. C'est bizarre. J'ai cette fascination pour la vacuité. Enfin, j'arrive pas à comprendre.
C'est toujours, y a toujours un suspense dans l'épisode, c'est de savoir si Alison Hennigan va bien jouer, si Britney Spears jouera mieux ou moins bien qu'Alison Hennigan, si la chèvre jouera mieux ou moins bien qu'Alison Hennigan. Et parfois, Alison Hennigan surprend et elle est moins mauvaise que d'habitude. Dans le précédent épisode, elle m'a presque fait rire.
Dans un truc avec des peintures.
Voilà.
Ouais, elle était moins mauvaise que d'habitude.
C'est comme si des fois elle avait un script qui la stimulait et elle se dit allez, je vais me motiver un peu pour justifier mon salaire qui doit être quand même plutôt conséquent.
Mais c'est pas Old Christine.
Je ne regarde pas, mais.
Et tu as tort.
Il y aura 22 épisodes la saison prochaine, c'est quand même la meilleure nouvelle des upfront qui ont eu lieu la semaine dernière et. Qui ont déclenché, en tout cas dans la rédaction, très peu d'intérêt.
Si, il y a Dollhouse qui a été annoncé.
Ouais, mais ça, on savait. Enfin, la plupart des news des upfront étaient annoncées il y avait déjà quelques mois. À partir du moment où Fox avait commandé 7 épisodes, on se doutait que Dollhouse allait être diffusé à un moment ou à un autre sur la Fox.
À la mi-saison.
On savait que Fringe, puisque c'est J.J. Abrams, enfin, sur la Fox, allait être diffusé. La plus grosse surprise qu'il y a eu, je pense que c'était l'annulation de Back to You, et encore, j'aimais bien la série, mais ça me dérange pas qu'elle soit annulée.
Ouais, ça c'est...
Elle avait un bon potentiel, et...
Complètement,
vu où ça allait
dans le mauvais sens.
Exactement, enfin, vu dans la direction sur laquelle ça allait, c'est pas plus mal qu'on arrête les dégâts là.
Bah oui, qui supprime le personnage le plus drôle, moi ça m'avait un peu stressé quand même, qui supprime...
Ada Fields,
la présentatrice de la météo. C'est bien elle qu'ils ont supprimé.
Ah oui.
Ah ouais. De toute façon, j'ai pas regardé depuis le retour après la grève.
Ouais, et les upfronts déclenchent peu d'enthousiasme.
Là, c'était pas une saison enthousiasmante déjà.
De toute façon, ouais, parce qu'on attend, on attend peu de choses, et puis il y a peu de renouvellement annoncé dans ces upfronts.
Et puis encore une fois, toutes les renouvellements
seraient pourris, on sait que ABC regarde tout.
Oui, puis à cause de la grève, la plupart des séries étaient sûres d'être renouvelées. Enfin, je veux dire, Dirty Sexy Money, il y aurait pu avoir du suspense. Enfin, on aurait pu se demander si ça allait être renouvelé, mais à cause de la grève, on savait que ça l'était. Gossip Girl aussi, donc. Et enfin moi j'ai pas vu de projet très enthousiasmant dans ces upfronts, ou enfin pas de projet où on lit et on se dit tiens qu'est-ce que ça va donner à part Dollhouse, mais c'est juste parce que c'est le retour de Joss Whedon, en soi la description que j'ai lue m'a pas donné spécialement envie, ni pas envie, c'était juste
J'étais surpris par Boston Legal, le fait que la saison n'aura que 13 épisodes l'année prochaine.
Ouais, mais ça ressemble à une espèce de...
C'est un deal
gros bras de fer entre David Kelley,
oui, c'était un deal sur Life on Mars
et ABC.
A priori, c'était David E. Kelley qui avait les droits de Life on Mars. Il a développé la série, mais ABC voulait le remplacer par d'autres showrunners. Et pour laisser les droits, il a passé un deal avec ABC. Il démissionne de Life on Mars, mais en échange, ABC est obligé de racheter une nouvelle saison de Boston Legal.
Mm-hmm. On a seulement 13 épisodes, un budget réduit.
Bah, un budget réduit, ça veut dire qu'on va enfin se débarrasser de la moitié du casting qui servait à rien.
Ouais, comme d'habitude.
Et avec un peu de chance, on va se concentrer juste sur les gens qui ont plus de 50 ans.
Ouais.
Et on aura au moins 13 épisodes totalement réussis de Boston Legal, c'est ce que j'espère. Mais j'ai juste besoin de...
Il faut s'attendre au pire. Hein.
Bah, Boston Legal, c'était quand même une série qui allait à l'encontre du schéma David E. Kelley. Première saison sympathique, une deuxième bonne saison, une troisième saison catastrophique, la quatrième saison tu veux l'annulation, la cinquième saison, bah, tu regardes plus. Là, Boston Legal, jusque-là, était parti d'une première saison assez moyenne. Mm. Et puis, petit à petit... Enfin, moi, j'ai rarement été déçu par un épisode de Boston Legal.
Ouais, moi non plus.
Mais là, il faut juste garder Jenna Rocket, Candice Bergen, Danny Crane et James Spader. On a besoin de personne d'autre.
Voilà, c'est ça, deux procès par épisode avec un mix des combinaisons avec ces quatre personnages-là dans les procès, puis voilà.
On peut garder la petite anglaise qui a un accent marrant si on veut. Si on se débarrasse de Jerry.
Ah oui, il faut juste se débarrasser
de Jerry.
Mais faut John McCain. McCain.
Comment il s'appelait déjà ?
John Cage.
Oh,
mon Dieu, quoi. Il faut qu'il arrête avec les tics de ses personnages. C'est juste insupportable. J'ai juste envie de le tuer. Mais ici, il y a comme une grande nouvelle pendant les upfronts. C'est Survivor va passer en high definition pour la saison prochaine.
J'adore le fait dans chaque interview. Ah bon, le Gabon, on savait pas que c'était un pays qui existait, on savait pas où c'était. Ça me fait toujours marrer, ça. Tu as vu l'interview sur Entertainment Weekly où il expliquait que quand ils ont fait Survivor Africa, ils avaient des gardes armés. Et que là, pour le Gabon, c'est tellement loin, c'est plus que personne ne connaît, que finalement, il se passera jamais rien sur le tournage, donc ils ont besoin d'aucune sécurité là-bas.
Ah ouais, ils devaient être contents, les candidats.
C'est assez rigolo quand même.
Comme c'était un pays qu'on connaissait pas, qui n'existait pas avant, ça devait être gentil.
Il devait être gentil.
Bah par contre, ils vont avoir quand même du mal à faire une saison, enfin en tout cas une deuxième moitié de saison aussi intéressante que celle de fan contre favorite. Même si tous les rebondissements sont quand même liés au fait que tous les hommes qu'il y avait dans la saison étaient quand même des abrutis finis.
Je trouve que c'était pas vraiment le plus gros atout de la saison, c'est que là on avait des gens qui savaient vraiment jouer le jeu. On a eu les fans qui ont voulu jouer, qui ont voulu trop faire beaucoup trop vite et qui sont débarrassés de leurs seuls espoirs très tôt dans la saison. Et finalement il restait plus grand monde chez les fans. Et on a eu les favoris qui ont joué le blind side et l'idole, l'idole assez intelligente et assez originale. Le fait que ce soit 4 épisodes originaux, quatre bons épisodes à la suite, c'est parce qu'il s'est passé vraiment des choses qui se passent rarement dans Survivor,
ouais,
et qu'ils ont emmené le jeu à un niveau plus élevé.
J'ai pas l'impression que... Enfin là, c'est avec le recul, hein, parce que sur le moment, à chaque fois, je criais, je hurlais, je tapais dans mes mains. Tellement j'étais content de ce qui se passait au Tribal Council, parce que pour une fois, on n'avait pas que les discussions. Souvent, ce qui est frustrant dans Survivor, c'est que... On a des discussions stratégiques très élaborées où il y a un plan qui implique 14 personnes, où il va falloir voter différemment, etc. Et finalement, pendant le Tribal Council, on se débarrasse du boulet, tout le monde vote comme ça. Là, ce qui change, c'est qu'effectivement, ils mettent leur plan à exécution, mais ils mettent leur plan à exécution parce que les adversaires qu'ils avaient en face quand même vraiment des têtes de nœuds. Et Eric, le fait qu'il ait été manipulé par Pavarti, par... Non, par... je sais plus comment ça s'appelle.
Nathalie.
Blonde, les... C'est vrai que c'est drôle, mais voilà, est-ce que ça aurait été la même chose si en Final 7, à la place de Eric et de Jason, on avait eu... le gars...
Joël.
Non, le gars... Le gars
Chet.
Non.
Le poulet.
Non. Le chicken machin, il était dans, dans fan contre favori.
Non, non, mais ils avaient des poulets et des poules. Non.
Le premier qui a été éliminé, c'était pas un gars qui était à la ferme, là ou...
Non, c'était une fille, le premier éliminé.
Ah, c'était dans Fidji. Je m'en rappelle plus.
Ouais, c'était dans Fidji. Ou... Bah, c'était un peu l'anti-Fidji cette saison.
Non, parce que dans Fidji...
C'est Eric Dreams. Et Yoman. Et
ouais. Ouais. Mais il y avait quand même un Tribal Council de folie, justement, avec Limity, avec Dodge, ou n'importe comment, etc., avec Eduardo et tout ça.
Ouais, je m'en rappelle plus.
Et j'avais vraiment l'impression que là, des gens jouaient. Non, mais juste cette saison, la fin de saison était mortelle, mais effectivement, il y a quand même de bons gros abrutis qui jouaient pas. Eric a pas joué. Eric a essayé de jouer, il avait un cerveau qui avait un QI, enfin...
Pour moi, le meilleur moment du jeu, ça reste quand même Amanda qui avait l'idole d'immunité et qui s'est quand même arrangée pour que tout le monde vole pour elle, juste pour avoir le pouvoir. C'est une façon de jouer l'idole d'immunité de façon assez originale quand même. S'assurer que c'est ton seul vote compte,
oui.
C'était plutôt bien. Elle aurait pu dire à Siri, écoute, j'ai l'idole d'immunité, vote avec moi et c'est bon.
En même temps, j'ai pas compris pourquoi ils ont viré celle qui avait une jambe dans le sac et pas la blonde méchante. Pourquoi virer Alexis? Parce que
ouais, peut-être si... du donnant-donnant. Moi, j'avais compris ça comme du donnant-donnant dans le deal que Parvati avait avec Amanda.
Ouais, peut-être.
C'est aussi une preuve de.
Puis elle était une motivation speaker, donc peut-être qu'elle aurait mieux parlé qu'Amanda.
Non, c'est pas difficile.
Tribal Council.
C'est pas difficile. Même si c'était ma candidate, j'étais content qu'elle perde. Quoi. C'était. Mais c'était une très bonne saison.
Ouais, c'était quand même super.
Merci Survivor durant la grève. Merci.
Même durant le retour des séries.
Même durant le retour des séries.
Et ben voilà, c'était ce qu'on pouvait dire sur cette période post-grève qui nous laisse un peu groggy, mais.
Ouais, c'était une période assez étrange quand même. Que toutes les séries ne soient parvenues. Ça m'a gêné que The Office finisse sur une bonne note, parce que maintenant, je suis un peu triste que ce soit arrêté, et je me demande pourquoi on a dû se taper une saison assez moyenne alors qu'ils étaient capables de faire beaucoup mieux. Je m'étais réhabitué à voir du 30 Rock chaque semaine, et surtout pour cet été, ben, y a pas vraiment de séries qui m'emballe.
Bah surtout, ce qui fait bizarre, c'est que les séries reprennent. Et moi, enfin, il m'a fallu deux épisodes pour rentrer dans chaque série. Et au bout de deux épisodes, je me suis dit, oh, c'était vraiment bien, je suis content que ça reprenne. Et en fait, c'était le saison finale. Ou
ouais, c'est fini, quoi.
J'ai dit, ah merde, putain. Donc, c'est dommage qu'ils aient pas fait. Au départ, ils parlaient de faire Gossip Girl, enfin, de continuer Gossip Girl pendant l'été. Finalement, apparemment, c'est pas ce qu'ils vont faire. Il y aura des épisodes pendant l'été, je sais pas. Ils auraient pu faire ça pour d'autres séries.
J'avais compris qu'ils vont faire 4 ou 5 épisodes qui se passent dans les Hamptons et que ce serait diffusé pendant l'été. Alors peut-être que pour eux.
Ah, mais d'accord, mais c'est un spin-off.
Non, non, enfin, genre, c'est les vacances, un peu comme ils faisaient avec Beverly Hills.
Ça me parle long.
Non, quand Brandon allait travailler à la plage, tout ça, c'était diffusé
pendant l'été. Aussi, ça.
Ce sera peut-être pas mal, mais c'est pas la même chose que d'avoir une saison, saison complète qui serait diffusée pendant l'été, ce qui aurait pu être fait en plus avec Gossip Girl, vu que la série, elle est regardée la plupart du temps sur internet. Les gens peuvent regarder sur internet quand ils sont en vacances. Donc, mais au moins, bon, on aurait quand même eu une fin de saison, on aurait pu rien avoir si la grève avait duré.
Est-ce que les acteurs vont se mettre en grève? Ça paraît impossible.
Ils gagnent déjà trop d'argent. Oh.
Quoi, c'est pas impossible?
Je sais pas.
Mais ils n'arrêtaient pas de se plaindre qu'ils n'avaient pas de boulot quand les scénaristes étaient en grève, donc si maintenant eux ils font grève.
Je pense que c'est le moment qu'on passe toutes les grèves et qu'on passe ensuite sur une saison qui va commencer en décembre.
Ce serait pas mal, toutes les chaînes qui feraient faillite et puis comme ça on repart sur des basses scènes en 2010-2012. On réinvente le concept de série télévisée, on recommence Ma Sorcière Bien-Aimée.
Sur le web.
Sur le fait par des femmes.
On pourra faire le remake de Desperate Housewives.
Avec
Vanessa Parce que c'est Williams, la mode dans le rôle de Betty Applewhite. Donc voilà.
Voilà.
Et bah à bientôt.
À bientôt.